78. 10h44. Tidiane sentit d'abord l'étau se resserrer sur ses chevilles, puis son ventre racler le sol, ses bras, ses jambes se griffer aux briques descellées, à s'en déchirer la peau, à en hurler de douleur. Il tenta de se raccrocher au vide, à la poussière de la grotte, au lourd sac. Mais il ne pouvait lutter contre la force qui le tirait de son trou. Il se retrouva éjecté sans ménagement sur le béton nu du couloir. L'enfer semblait flamber. Les flammes léchaient les parois grises et étiraient démesurément chaque ombre, celle de Freddy surtout. Il avait coincé la torche entre un tuyau et le mur. Le feu dansait sous le tunnel. La chaleur rendait l'air tiède, contrastant avec la fraîcheur du reste de la cave. D'une main, Freddy repoussa Tidiane contre le mur et de l'autre, lui arracha des mains le sac Adidas noir.
« T'es un sacré petit malin, Tidi. J'ai bien fait de te faire confiance. »
Il observa un instant l'entrée de la cavité creusée dans le mur, sous la racine de l'oranger.
« Si tu n'avais pas oublié ton ballon, je crois que je ne me serais pas arrêté. »
Le ballon Morocco 2015 avait roulé à quelques mètres d'eux. Tidiane l'observa avec terreur, puis leva à nouveau les yeux vers Freddy.
« Je ne suis pas un voleur, tu sais. Je ne fais que récupérer ce que ta maman m'a emprunté. »
Il soupesa le sac.
« D'ailleurs, il est presque aussi lourd qu'avant. À croire qu'elle s'en est à peine servie. »
Tidiane tentait de se redresser, mais d'un geste du pied contre son torse, Freddy le coinça contre la paroi.
« Je me doutais bien que ta maman dépenserait l'argent. Mais ne toucherait pas aux objets. Ta maman a toujours été un peu superstitieuse. »
Il ouvrit le sac et vérifia son contenu avec un sourire malfaisant.
« Tu as regardé, toi aussi, petit curieux. Tu as compris, alors, pourquoi je tenais à retrouver ce trésor. Pas pour sa valeur. Même s'il représente une jolie tirelire économisée pendant plusieurs années, mais pour les fantômes à qui ces objets appartenaient. Des invisibles disparus depuis longtemps, qui ne pourront jamais accuser qui que ce soit, dont les poussières ont été depuis longtemps balayées par le vent du désert. Mais tu apprendras, mon petit, qu'un objet est parfois plus bavard qu'un homme. Une bague, un collier, un bijou peut parler. Des années plus tard, pour le mari qui l'a offert, la mère qui l'a porté. On ne peut pas tuer les objets, tu comprends? On peut juste les cacher, ou les vendre, très loin de l'endroit où on les a trouvés.
Freddy laissa tomber le sac sur le sol. Un bruit sourd résonna dans le couloir, alors que le choc soulevait un nuage de poussière étoilée. Il se tourna vers Tidiane. Dans sa main, le monstre serrait à nouveau le couteau.
« Mais toi aussi, Teddy, tu pourrais parler. Et tu ne possèdes aucun objet de valeur que j'aimerais garder en souvenir, qui un jour pourrait raconter ton histoire. »
Freddy avança son poignard dans le brouillard. Tidiane crut que le monstre allait frapper au hasard le nuage de poussière, comme un fou chasse les lucioles. Mais il se pencha simplement pour percer d'un coup de lame le ballon Morocco 2015. Son porte-bonheur se dégonfla presque immédiatement, comme une baudruche crevée dans un sifflement sinistre de serpent. Une colère aussi soudaine qu'intense explosa en Tidiane. La force qui lui manquait. Il bondit d'un coup, il apercevait l'escalier au bout du couloir. Il serait plus rapide, il s'en sortirait, il se vengerait. Le bras de Freddy l'attrapa par la taille. Il avait anticipé sa réaction, l'avait stoppé aussi facilement qu'on attrape un nouveau-né qui commence à marcher. Le bras lourd de Freddy remonta et lui serra le torse, le coinça contre sa poitrine, l'empêchant presque de respirer. Tidiane pouvait sentir le monstre souffler sur ses joues, une odeur de sueur et d'alcool. Il vit briller le poignard bloqué dans la main droite de Freddy.
« Je suis désolé, Tidi, je ne peux pas te laisser tout raconter. Et surtout, j'ai fait une promesse à ta mère. J'ai longtemps cherché comment faire pour qu'elle souffre autant que j'ai souffert. Lui voler sa vie n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, ni pour elle, ni pour moi. Mais lui voler celle de son fils.
Le poignard s'approcha encore de sa gorge. Tidiane ne se débattait plus. Il avait compris que le monstre était trop fort. La flamme de la torche brillait sur la lame.
« Lâchez votre arme !»
Le nuage de poussière s'était presque entièrement dissipé. Une silhouette pointait un revolver sur Adil, au bout du couloir, en bas de l'escalier, seulement éclairé par la luminosité de la porte du palier de l'immeuble restée ouverte. « Un flic !» pensa Adil.
« Lâchez votre arme !»
répéta la silhouette. Sa voix tremblait. Son bras tremblait. Un gamin de moins de 30 ans qui n'avait jamais tiré, analysa Adil. Sa chance ? Au lieu de desserrer ses doigts raidis sur le manche du poignard, Adil Zahiri rapprocha davantage encore le couteau de la carotide de Tidiane, piquant la chair de la pointe de la lame.
« Si vous tirez !» cria Adil. « Je le tue ! Alors c'est vous qui allez faire glisser votre arme jusqu'à moi !»
Le flic hésitait. C'était gagné. Il ne ferait rien qui puisse mettre en danger la vie du gamin. Un otage de 10 ans. Une assurance vie.
« Je n'ai rien à perdre !» insista Adil. « Si vous ne m'envoyez pas votre flingue, je pointe ce gamin. Ce serait pas le premier que... »
Adil esquissa un geste d'impatience. Son visage se déforma en une grimace sadique que les flammes devaient rendre satanique.
« Ok, ok !»
s'empressa de répondre le jeune flic. Il se baissa, levant la main en signe de conciliation, puis lança le revolver sur le sol en direction d'Adil. Pas assez fort. L'arme s'arrêta à une quinzaine de mètres du policier, à une vingtaine de Zahiri. Bien joué, pensa Adil en crispant ses mains sur le couteau. Ce jeune flic voulait ruser. Il pensait sans doute être le plus rapide si l'un des deux se précipitait pour récupérer le flingue, surtout encombré de ce gamin. Ce cow-boy inexpérimenté négligeait seulement un paramètre. Les armes à feu ne sont pas les seules à pouvoir tirer plusieurs coups. Adil avait pris sa décision. Il ferait diversion, puis frapperait par surprise, enfoncerait ce couteau dans la poitrine du gosse, et l'instant suivant, se servirait de la même lame ensanglantée pour planter ce flic qui ne manquerait pas de foncer sur lui. À quelques mètres, quasiment à bout portant, il ne pouvait pas le rater. Adil respira profondément. Entre ses bras en étau, il sentit le gamin se raidir. En finir. Ne pas davantage le faire souffrir. Adil desserra son étreinte, comme s'il acceptait que Tidiane puisse s'échapper, le laissa faire un pas sur le côté tout en dissimulant le long de sa cuisse le manche du poignard serré. Puis, soudainement, Adil pivota du bassin, releva le bras à une vitesse foudroyante et fendit l'air brûlant pour frapper en plein cœur. La détonation explosa dans le couloir, se répandit en écho entre les parois de l'enfer. La dernière réflexion d'Adil, à l'instant même où l'impact de la balle traversait son poumon, fut d'observer le revolver par terre et de se demander par quelle magie il avait pu tirer. Tout en s'effondrant dans la poussière, il remarqua une seconde ombre en retrait derrière le policier. Une ombre fine, féminine, si froide, implacable et déterminée qu'il crut avoir été tué par son propre reflet.
Tidi ! Bambi !
Alors que le jeune garçon se précipitait dans les bras de sa sœur, le lieutenant Julo Flores s'était assis sur la première marche de l'escalier. Perdu, rassuré, fier, dépassé. Incapable de faire le tri dans ce mélange étrange de sentiments. Il serait sans aucun doute révoqué de la police. Il venait de sauver la vie d'un gosse de 10 ans. Il était complice d'un meurtre, le troisième commis en 3 jours par cette fille. Une fille qu'il devait désormais livrer à la justice. Il attrapa le téléphone dans sa poche.
Commissariat de Rabat, passez-moi un policier, n'importe lequel.
Bambi Mal se retourna vers lui. Il ne lut aucun reproche dans ses yeux enlarmés, aucune peur, aucun remords. Au contraire, il y lut la réponse à ce qui l'avait fasciné depuis le jour où il avait croisé ce regard, capturé par une caméra de surveillance, ce regard de défi. Il y lut un simple merci. Bambi Mal s'avança vers lui, après avoir posé un long baiser sur le front de Tidiane et l'avoir assis avec précaution sur une autre marche de l'escalier. Des flics parlaient en arabe. Julo éloigna le téléphone de son oreille.
« S'il vous plaît, » fit Bambi. « Je vous suivrai. Je vous promets que je vous suivrai. Mais je vous en prie, laissez-moi quelques minutes. »
Elle laissa passer un long silence avant de préciser «
6 minutes, très exactement. »